Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois.
Ça offre aux athlètes un chemin qui est clair et qui est indépendant dans lequel ils peuvent avoir confiance pour signaler les cas d'abus et de mauvais traitements.
Bonne fin de journée, tout le monde. Il y a de ces politiciens qui ont marqué à ce point l'histoire d'un peuple qu'on fait référence à leur nom et à leurs accomplissements presque toutes les semaines, même parfois tous les jours, même 35 ans après leur mort. C'est le cas de René Lévesque, sans qui le Québec ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Mort en 1987, René Lévesque aurait 100 ans cette année, en fait, plus précisément le 24 août. Un anniversaire qui tombe en même temps que le parti qu'il a créé et mené pour la première fois au pouvoir en 1976, le Parti québécois, vit des moments assez difficiles. Le legs de René Lévesque ne s'arrête d'ailleurs pas au Parti québécois. On va y revenir dans un moment avec l'ex-député péquiste François Gendron. Mais d'abord, pour souligner ce 100e anniversaire de naissance, la Fondation René Lévesque lance ce soir l'Année Lévesque. Ça se passe à la Grande Bibliothèque à Montréal où on retrouve en direct ma collègue Anaïs. Bonsoir Anaïs.
Bonsoir, Michel.
On attend plusieurs invités ce soir lors de cet événement sous la présidence d'honneur de Lucien Bouchard.
Oui, qui a lui-même été premier ministre du Québec sous l'égide du Parti québécois de 1996 à 2001. Mais aujourd'hui, on est ici pour souligner, tu l'as bien dit, le 100e anniversaire de naissance de René Lévesque. On organise une table ronde qui est déjà en cours. Et puis, quand on est arrivé un peu plus tôt aujourd'hui, il y avait plusieurs dizaines de personnes qui attendaient pour assister à cette table ronde. On va aussi lancer un livre, « Un homme et son siècle », sur le legs de René Lévesque, qui a été premier ministre et créateur du Parti québécois. Et tu l'as dit, l'Année Lévesque. C'est une série d'une dizaine d'événements qui vont être échelonnés jusqu'en 2023 pour souligner l'héritage énorme de cet homme politique. Ce soir, il y a 200 à 250 personnes qui sont attendues dans le cadre d'allocutions de personnes assez importantes, comme par exemple le premier ministre du Québec, François Legault, la chef libérale, Dominique Anglade, un des porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, et le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon.
Qui n'avait pas eu d'invitation au début. Il a failli pas avoir de tribune ce soir.
Ça fait l'objet d'une controverse qui est allée mettre de l'huile sur le feu de relations qui sont déjà tendues là, au sein du mouvement indépendantiste. La Fondation René Lévesque, qui organise l'événement de ce soir, là, avait d'abord exclu M. Paul Saint-Pierre Plamondon des discours, même s'il est le chef de ce parti que René Lévesque a créé. Pour M. Saint-Pierre Plamondon, bien, son exclusion s'explique notamment parce que personne ne veut plus entendre parler de ce mot en S, le mot souveraineté.
C'est un homme politique qui, et on va en parler au cours des prochaines minutes avec mon invité, qui a marqué vraiment l'histoire, les mémoires.
Oui, René Lévesque a eu deux mandats qui a d'abord commencé sa carrière comme nous. Il était journaliste, il était très connu dans ce métier-là. Il a aussi été correspondant à l'international. Il a ensuite fondé le Parti québécois en 1968. Et c'est sous lui qu'a eu lieu le premier référendum pour l'indépendance du Québec en 1980. On lui doit, notamment à lui et à son parti, l'adoption de la loi 101 et aussi on ne le rappelle pas souvent, mais il est aussi derrière, là, en 1979, l'adoption de la loi sur les normes du travail. Donc, il a un large héritage qui touche plusieurs partis politiques encore aujourd'hui. On va le voir un peu plus tard ce soir avec les hommages qu'on va lui rendre.
Oui, exactement. Donc, ça se déroule au cours des prochaines heures. Merci beaucoup, Anaïs. Et on poursuit avec mon invité. Il a bien connu René Lévesque, François Gendron, ex-député péquiste. Bonsoir, M. Gendron.
Bonsoir, ça me fait plaisir de participer à l'émission.
Bien, on est bien content de vous recevoir. Avant de parler de son legs, parlez-nous un peu de l'homme qu'il était, parce que vous l'avez connu, vous avez été élu comme député dans le premier gouvernement péquiste de l'histoire du Québec en 1976. Quel genre d'homme il était?
Ah, un homme du peuple, un homme extraordinaire en termes de culture. M. Lévesque pouvait parler de n'importe quoi. M. Lévesque avait des convictions. Monsieur Lévesque était ce que j'appelle un homme qui respectait l'électorat, un très grand démocrate, un social-démocrate. Et dans ce sens-là, moi, j'ai adoré travailler avec lui pendant deux mandats. Et j'avais eu la chance de le connaître antérieurement. Mais moi, permettez-moi une petite correction. Paul Saint-Pierre Plamondon n'a pas été invité au début, pas plus que les autres.
Non,
et
vous avez raison.
Sauf qu'ils sont pas... Ah oui, mais il faut le dire, parce qu'il n'y a personne d'autre qui est invité, et c'est ça l'erreur stratégique qui a été commise. Bon, il ne faut pas être drame avec ça, c'est réglé. Mais c'était pas convenant de dire, bon, ben il n'y aura que le premier ministre et le président des festivités entourant l'année l'évêque. Alors, Mme Anglade n'était pas là, tous les autres n'étaient pas là.
C'est une erreur de jugement de la part des organisateurs, selon vous?
Ben, à coup sûr, c'est l'erreur politique. Écoutez, quand tu étais chef de parti, comme M. Bouchard l'a été, puis admirablement, je pense, moi, personnellement, je trouve qu'il a fait globalement un bon job, c'était incorrect de ne pas inviter ceux qui font l'action politique. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, et unanimement, les gens ont dit, on va inviter tous les dirigeants politiques, des partis politiques. Parce que la question est quand même politique. Quand on fait croire que c'est... Ben, c'était pour éviter de la partisanerie. Il n'y a pas de partisanerie quand quelqu'un a été identifié comme étant l'homme politique qui a plus marqué le Québec.
Ben oui, bon.
Dans les...
Parlons-en, parce que le temps file. Je veux vous entendre sur les legs, le leg à vos yeux, le principal leg de René Lévesque.
Ah, le principal, c'est d'avoir donné la fierté au Québec. Arrêtez de penser qu'on est né pour être typé, là. On a un rôle à jouer dans la société. Il faut poser notre pierre. Donc, M. Lévesque, il nous a donné la fierté, la confiance, la langue, la culture, des lois majeures. Jamais un gouvernement a eu un bilan aussi d'envergure de 76 à 81. La preuve, c'est que le 13 avril, on a été élu plus fort que 76 parce que la presse avait la décence de dire 8 sur 8 les grands enjeux. Autrement dit, on avait un bilan parfait. La seule drame, c'est le référendum du 20 mai 80. Mais M. Lévesque, qu'est-ce qu'il a dit le soir du 20 mai 80? Il a dit, si je vous ai bien compris, à la prochaine fois. Ouais. Donc, il n'abandonnait pas la cause. Alors, M. Lévesque est un homme de cause. Puis sa cause, c'était la souveraineté du Québec. La souveraineté du Québec, avec des convictions, avec une très grande intégrité, un respect de la démocratie, puis un respect des anglophones. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et dans tous les sondages, juste une seconde, parce que c'est bien important.
Ouais, allez-y.
Tous les sondages qui ont eu lieu, là, 66% disent l'homme qui a marqué le plus la politique québécoise, c'est 66. C'est vous au courant qui est deuxième? M. Bourassa à 8%. Puis les autres, moi, je veux pas les réduire, mais c'est la réalité. M. Lévesque a tellement marqué l'histoire politique du Québec que 66% des hommes et des femmes du Québec disent « c'est l'homme politique qui a plus marqué notre histoire ».
Bon, il nous reste moins d'une minute. Est-ce qu'il la laisserait tomber, la souveraineté, aujourd'hui, en 2022?
Pas du tout, parce que si je vous dis que c'est un homme de cause, d'une cause, la souveraineté du Québec qui s'appelle l'indépendance, il la laisserait pas tomber parce que la nation québécoise est une nation. Quand est-ce qu'on va comprendre ça? Monsieur John Diefenbaker, il y a longtemps, disait « It's very important to know two nations in Canada
».
Imaginez, pourquoi qu'on laisserait tomber ce que nous sommes? On n'est pas une province comme les autres, on est une nation. Or, les nations normales, ils ont un gouvernement normalement, et je suis convaincu que Monsieur Lévesque, mais dans le respect de l'évolution du peuple, on ne veut pas l'acheter. On ne veut pas l'acheter, l'indépendance du Québec.
Non, Monsieur Gendron,
on veut la partager.
Il nous reste, je vous donne 15 secondes parce que je veux savoir qu'est-ce que, selon vous, René Lévesque penserait du Québec aujourd'hui en 2022?
Ben, il penserait aux Québécois, regardez, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de ne pas vous faire confiance et il répéterait ce qu'il a dit. Si je vous comprends bien, on va la faire démocratiquement, la souveraineté, mais on va la faire parce qu'elle est requise. Elle est requise quand on est une nation normale et ça s'appelle devenir adulte, ça s'appelle devenir responsable de nous-mêmes. Et M. Lévesque poursuivra cet objectif-là, j'en suis certain.
M. Gendron, un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Je pense qu'on aurait pu parler de M. Lévesque pendant des heures ensemble. On va vous réinviter. Merci beaucoup.
Ça va me faire plaisir de parler de M. Lévesque.
On le note, c'est l'année Lévesque, on va vous réinviter. Merci beaucoup, bye-bye.
Bye-bye.
On change complètement de sujet. On va parler, oui, de la saison chaude qui ne fait que commencer, mais on a déjà eu droit à un week-end tragique. Il y a trois enfants qui ont été impliqués dans des accidents aquatiques au Québec, dont un qui est malheureusement décédé. Ma collègue Sabrina Rivet est avec moi pour en parler. Salut Sabrina.
Salut Michel.
Au moment où on se parle, il y a un enfant qui a été retrouvé dans une piscine à Repentigny en fin de semaine, qui est toujours dans un état critique, c'est ça?
Selon les dernières informations que nous possédons, cet enfant-là, âgé de 5 ans, est toujours dans un état critique. Donc, si je vous rappelle les faits, c'est arrivé hier en fin de journée. Alors, les policiers qui se sont rendus, qui ont été appelés à se rendre enfin à l'arrière d'une résidence du boulevard Iberville à Repentigny. Vous voyez d'ailleurs les images. Le jeune enfant était tombé dans une piscine creusée qui n'était pas encore ouverte, ce qui veut donc dire que l'eau était de couleur foncée et on voyait pas le fond. Il y a donc plusieurs personnes qui sont sautées dans la piscine pour tenter de retrouver le garçon de 5 ans. Finalement, ils ont été en mesure de le repêcher, mais malheureusement, il a été transporté à l'hôpital Sainte-Justine et là, cet enfant-là, il est toujours entre la vie et la mort. Également, tu le disais, plusieurs autres événements au courant du week-end. On se transporte sur la rive sud de Montréal, Saint-Lambert. Il y a un petit garçon d'à peine 4 ans qui s'est noyé samedi en après-midi dans une piscine résidentielle. Donc, il est malheureusement décédé. C'est survenu dans la cour arrière d'une maison de l'avenue de Normandie. Et ça, on se transporte en banlieue de Québec à Saint-Nicolas, toujours samedi, pendant qu'un enfant se baignait. Lui, il a perdu sa veste de flottaison. Mais heureusement, ses parents n'étaient pas très, très loin. Ils ont eu le temps de le sauver et de lui faire des manœuvres de réanimation. Mais quand même, ça reste que c'est quand même un week-end assez noir pour ces débuts de noyade-là.
Et ça ne fait malheureusement, il risque d'avoir d'autres événements comme ça cet été. Merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir.
Le directeur général de la Société de sauvetage, Renald Hawkins, est avec nous. Bonsoir, M. Hawkins.
Bonsoir à vous.
Bonsoir. On a vraiment l'impression que ce sont les mêmes scénarios qui se répètent d'année en année. Ce qu'il faut noter, c'est que quand il est question de noyade d'enfants, c'est vraiment une question d'inattention de quelques secondes. Hein?
Oui, la noyade chez les enfants est un phénomène qui est silencieux. C'est de 15 à 20 secondes. Vous n'avez pas d'autre chose que de surveiller l'enfant. Sinon, c'est une noyade certaine. Vous savez, un nourrisson là, ou un enfant d'âge pédiatrique, fait en sorte que, justement, l'enfant va essayer de tenter de respirer pendant 5 fois et malheureusement, il tombe inconscient vu qu'il est dans le milieu fluide. C'est une asphyxie qui est causée par le liquide.
Donc, il y a moins de réactions qu'un adulte, par exemple, qui va souvent aviser qu'il est en difficulté dans l'eau. C'est ce qui fait toute la différence.
Oui, absolument. Il n'y a aucun mouvement moteur. Donc, c'est un phénomène silencieux. Fait que si vous n'êtes pas en train de le surveiller, vous ne le saurez pas qu'il est en train de se noyer, l'enfant. Et c'est pour ça qu'on parle de sauveteur désigné ou de surveillant désigné. Vous avez vraiment le mandat de le surveiller lorsque la piscine est ouverte pour la baignade parce que la noyade se fait entre 15 et 20 secondes. Donc, on n'a pas le temps de faire autre chose que de surveiller.
Votre organisme a recensé une vingtaine de noyades depuis le début de l'année. Comment on explique ça? Parce qu'il n'y a pas fait très chaud encore, là.
Bien, c'est sûr que ça inclut toujours les noyades hivernales et printanières. On sait qu'on s'en va vers la saison où on va en rencontrer le plus de ces noyades-là durant l'année. Vous savez, 75 % ont lieu entre le mois de juin et le mois de septembre. Donc, ce sont les premières noyades qu'on rencontre dans les piscines résidentielles. Et là, on va retravailler encore les messages de l'aménagement sécuritaire, la surveillance désignée sont peut-être les deux facteurs les plus déterminants qui vont faire en sorte qu'on n'aura pas, justement, des noyades de jeunes enfants durant la saison estivale. Mais malgré tout, il reste que derrière chaque noyade, il faut voir l'opportunité d'éduquer et sensibiliser la population. Et ça, on le fait avec vous en ce moment.
Oui, bon, il y a les noyades en piscine, il y a les noyades en milieu naturel. Avec la pénurie de main-d'œuvre qui touche à peu près tous les secteurs, qui touche, entre autres, toute la question des sauveteurs, le manque de sauveteurs. Ce manque-là était là bien avant la pandémie là, et avant la crise de main-d'œuvre qu'on connaît en ce moment. Est-ce que vous craignez que la fermeture de piscine ou la diminution des heures d'ouverture par manque de sauveteurs pousse certaines personnes à prendre davantage de risques pour aller se rafraîchir en milieu naturel?
Encore plus vrai si on se retrouve avec des vagues de chaleur, que ce soit sur les plages non surveillées ou encore les gens qui vont vouloir franchir les clôtures pour aller se baigner dans les piscines publiques. Ça se voit à chaque année. Et le fait que, justement, la pénurie est un des facteurs déterminants, pas juste à cause du contexte économique. Pendant 2 ans, on a formé moins de sauveteurs qu'à l'habitude à cause de la pandémie, justement. Ce qui fait qu'il va falloir rattraper tout ça au fil du temps, sinon on va fermer les lieux de baignade pendant encore quelques années encore.
Donc, moins formé de sauveteurs et j'imagine donner moins de cours également de natation aux enfants, parce que ça aussi, c'est une façon d'éviter des noyades.
Absolument, oui. Mais le problème qu'on rencontre en ce moment, c'est la pénurie de main-d'œuvre, même pour l'enseignement de la natation. Alors donc, il faut repartir le processus.
C'est bien noté, M. Hawkins. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous dis à la prochaine, mais j'espère qu'on ne se parlera pas trop au cours des prochains mois, parce que normalement, lorsqu'on se parle, c'est parce qu'il y a des noyades. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Au revoir.
Au revoir. Les élèves du primaire en difficulté d'apprentissage n'ont pas accès aux services dont ils ont besoin. En fait, c'est ce que conclut le protecteur du citoyen dans un rapport spécial qui a été publié aujourd'hui. On en parle avec mon collègue Simon Bourassa. Salut, Simon.
Salut, Michel.
Le protecteur juge inacceptable le délai entre le moment où on identifie une difficulté chez un enfant et le moment où l'école procède à l'évaluation de ses besoins.
On parle de 8 mois entre ces deux moments, Michel, puis du moment où on a identifié les problèmes et puis où l'élève en difficulté en question peut avoir accès à des services, peut s'écouler jusqu'à un autre 8 mois. Donc, on parle de plus d'une année scolaire pour qu'on, tu sais, du moment où on identifie qu'il y a un élève qui a des problèmes et qu'on puisse lui donner le service. C'est beaucoup trop long selon le protecteur du citoyen. Mais c'est pas le seul problème qu'il y a avec les élèves en difficulté d'apprentissage ou d'adaptation au Québec. Selon lui, il y a plein d'exemples. Entre autres, les services qui sont donnés jusqu'à ce que l'élève dans une matière donné atteigne la note de passage. Après 60%, on arrête de l'aider, on passe à autre chose, alors que souvent, bien, les élèves auraient ou ont besoin d'aide, même après avoir atteint la note de passage, on s'entend. Donc, il y a des problèmes à plusieurs niveaux, des recommandations qui sont émises dans ce rapport. Je voulais entendre le protecteur du citoyen sur un autre type de problème qui est vécu dans les écoles, c'est carrément dans l'organisation du travail.
Le rôle et les responsabilités des différents professionnels ou personnels techniques appelés à donner des services éducatifs complémentaires est mal défini et mal compris dans certaines situations. On ne sait pas, par exemple, l'orthopédagogue, quel est son rôle exact, quel est le rôle qu'il doit jouer dans le plan d'intervention de l'élève, que doit faire le technicien ou la technicienne en éducation spécialisée. L'idée de clarifier d'abord le rôle de chacun, ça s'est imposé comme une évidence.
Mais Simon, dans le milieu de l'éducation, ce sont des problèmes qu'on remarque depuis longtemps.
C'est ce qu'on m'a dit du côté de la CSQ, donc, qui représente un bon nombre de professeurs, de gens qui travaillent dans le milieu scolaire. C'est effectivement, on remarque ça depuis plusieurs années. C'est accentué, par contre, présentement par le manque chronique de main-d'œuvre. Donc, on a de la misère à former des orthopédagogues, des orthophonistes, des éducateurs et éducatrices spécialisés. Puis, on a surtout du mal à les garder dans le réseau public. Beaucoup s'en vont vers le privé. Puis, d'ailleurs, il y a dans certaines écoles, puis dans certains cas où on sait qu'on ne sera pas en mesure de donner le service dans un délai raisonnable, on dit aux parents, écoutez, allez au privé. Donc là, on vient créer deux classes de citoyens, les services au privé qui peuvent être assez onéreux, on s'entend. Donc, je voulais s'entendre la vice-présidente de la CSQ.
Les écoles, présentement, selon le financement, ils vont engager un certain nombre de ressources. Puis là, on se retrouve dans une fâcheuse position où tu demandes, par exemple, à des enseignants disent, bien, là, je peux prendre 3 enfants de ta classe pour le service en orthopédagogie. Là, tu fonctionnes en fonction des ressources disponibles et non pas, ça devrait être l'inverse, les besoins des enfants. C'est ça l'égalité des chances. Donc, tu prends en fonction des besoins de tes enfants. Puis on va se le dire, depuis quelques années, la composition de la classe, là, c'est un grand enjeu. Il y a de plus en plus d'enfants dans nos groupes qui vivent des difficultés.
Reste à voir quels seront les changements qui seront apportés s'il y en aura. Merci beaucoup, Simon.
Merci, Michel. Bonne soirée.
Jour 2 des audiences publiques sur l'insurrection du Capitole. Ben, y a des proches de l'ex-président Donald Trump qui sont venus livrer leur version des faits. On en parle avec notre collaboratrice Valérie Beaudoin après la pause. Donald Trump était déconnecté de la réalité. Ce sont des mots marquants qui ont été prononcés par un des proches de l'ancien président lors du jour 2 des audiences publiques de la commission en fait d'enquête sur l'attaque du Capitole survenue le 6 janvier 2021. On en parle avec notre collaboratrice spécialiste en politique américaine, Valérie Beaudoin. Bonsoir Valérie.
Bonsoir Michel.
Tu as suivi ces audiences-là, bien sûr, comme la première journée. L'objectif de l'audience d'aujourd'hui, c'était vraiment de montrer que Donald Trump savait qu'il avait perdu l'élection, peu importe ce qu'il disait publiquement, mais qu'il a quand même tenté de renverser le résultat.
Ah oui, tout à fait, que les gens autour de lui, autant ses conseillers juridiques que des conseillers spéciaux, que des membres de sa famille, lui ont dit, après avoir vu les preuves ou l'absence de preuves, qu'il avait perdu l'élection, qu'il n'y avait pas de fraude et que finalement, on devait laisser le processus démocratique suivre son cours. Et la personne au centre de toutes les conspirations, la personne qui aurait influencé Donald Trump dès la première nuit, donc la soirée électorale, c'est qui? C'est son ancien avocat. Je vais te faire entendre un extrait d'ouverture de Liz Cheney, qui est la numéro 2 de cette commission d'enquête.
You will also hear testimony that President Trump rejected the advice of his campaign experts on election night and instead followed the course recommended by an apparently inebriated Rudy Giuliani to just claim he won and insist that the vote counting stop, to falsely claim everything was fraudulent.
Donc, parmi les témoignages, on a su que Rudy Giuliani était intoxiqué la soirée de l'élection et qu'il aurait réussi quand même à convaincre Donald Trump de déclarer sa victoire. Et par la suite, on connaît le reste de l'histoire.
Bon, et un des moments très forts qui est venu en fait d'une déclaration de l'ancien procureur général des États-Unis qui n'a jamais cru aux théories de conspiration présentées par Donald Trump.
Oui, un procureur qui avait été nommé par Donald Trump en plein mandat, donc c'était quelqu'un qui était très près de lui, William Barr, qui a dit « On me présentait des preuves. Le président me présentait des documents. C'était amateur. C'était pas des gens crédibles qui avaient fait ces rapports-là, qui prouvaient, entre guillemets, qu'il y avait eu fraude électorale. Ça manquait de sérieux. » Et il l'a dit, tu l'as dit aussi d'entrée de jeu, là, la chose suivante, vraiment, qui était déçu du président, on peut entendre William Barr.
« I was... » somewhat demoralized because I thought, boy, if he really believes this stuff, he has, you know, lost contact he's become detached from reality if he really believes this stuff.
Ça vient de lui, hein, déconnecté de la réalité. Ils ont également continué de démontrer le lien entre Donald Trump et l'insurrection du 6 janvier.
Oui, tout à fait, que les gens et les insurrectionnistes répétaient les mêmes déclarations que Donald Trump, qu'il y avait un danger pour la démocratie, qu'ils devaient être des patriotes. Alors, si on part du fait que Donald Trump savait qu'il avait perdu l'élection, mais qu'il a continué de perpétrer ce mensonge, eh bien, on dit qu'il a influencé directement ces insurrectionnistes et on connaît les attaques violentes. On a vu les images, on s'en est parlé à plusieurs reprises. Bref, c'est ce qu'on va continuer de tenter de démontrer.
Il y a eu un témoin qui a annulé à la dernière minute son témoignage.
Avec quand même une bonne raison. Selon son avocat, sa femme était en train d'accoucher. C'est pour ça, mais je te dirais qu'au début de la journée, on s'est dit qu'est-ce qui se passe, parce que c'est un ancien conseiller de la campagne de Trump, donc on pensait qu'il y avait peut-être anguille sous roche, mais finalement, c'était une raison bien, bien valable.
Oui, bon, rebondissement qu'on attendait,
parce que c'est un feuilleton, Michel.
Ça. Bon. Un mot en terminant sur ce qui s'est passé en fin de semaine, cette entente de principe entre les démocrates et les républicains au sujet des armes à feu. Qu'est-ce que ça contient? Puis est-ce qu'on est certain que l'entente va tenir et devenir éventuellement une loi?
Alors, un petit miracle peut-être, cette entente de principe. À quel sujet? Investissement en santé mentale, investissement dans la sécurité des écoles, trouver des meilleurs moyens pour empêcher les gens qui ont des problèmes de santé mentale connus, des antécédents criminels, d'avoir des armes à feu. C'est peut-être la base, vous me direz, mais quand même, c'est ce qu'on a inclus. Aussi, pour les moins de 21 ans, que ça soit plus difficile d'acheter des armes, donc de mieux vérifier les antécédents de ces personnes-là. Et si ça va passer ou non, eh bien, jusqu'à maintenant, on a les 10 votes républicains nécessaires pour faire passer cette loi-là. Mais bien, on connaît la fragilité du système américain, donc on doit passer ça très rapidement, ce vote, pour s'assurer que ça fonctionne.
On s'en reparle bientôt. Merci beaucoup, Valérie.
Avec plaisir. À bientôt.
110e jour de guerre en Ukraine, l'armée russe a réalisé un gain important aujourd'hui en prenant le centre de la ville-clé de Severodonetsk dans l'est du pays. Ce secteur qui est primordial dans la bataille du Donbass est le théâtre de combats violents depuis maintenant des semaines. Dans l'ouest de l'Ukraine, le Kremlin a affirmé avoir détruit hier un grand entrepôt en fait d'armes fournies par les Occidentaux. Le président Zelensky a encore une fois demandé à la communauté internationale d'augmenter les sanctions contre la Russie. On revient au Canada. Les scandales de mauvais traitements, d'abus sexuels et de climat toxique dans le monde du sport se sont multipliés au cours des dernières années. Gymnastique, natation, rugby, en fait, on dirait qu'il y a à peu près toutes les disciplines. Il n'y a aucune discipline qui est épargnée. Il y a la ministre canadienne des Sports, Pascale Saint-Onge, qui a annoncé hier une série de mesures pour mieux protéger les athlètes. À compter d'avril 2023, les fédérations sportives devront respecter une série de critères de bonne gouvernance pour obtenir du financement de Sport Canada. On en parle avec l'ex-skieur et médaillé olympique Jean-Luc Brassard. Bonsoir, Jean-Luc.
Bonsoir.
Que pensez-vous d'abord de cette annonce d'hier?
Je pense qu'il faut saluer que cette ministre qui est en poste simplement depuis 5 mois a vraiment pris le taureau par les cornes cette fois-ci. Il faut peut-être pas faire autrement non plus parce que, comme vous l'avez mentionné, c'est rendu presque une annonce par mois au niveau d'une fédération avec des dizaines de membres qui faisaient état d'abus, d'harcèlement, de sévices de toutes sortes. Alors, c'était pas très bon pour l'image du sport. C'est pas très bon pour l'image du pays non plus. Alors, finalement, il y a des sanctions qui sont prises. C'est souvent les sanctions qui font le plus réfléchir, les sanctions monétaires. Alors, souhaitons que ça va avoir l'effet escompté. Surtout, souhaitons qu'elle soit appliquée.
C'est la bonne poignée, ça, justement, la menace financière pour faire bouger un peu les choses?
Les fédérations sont toujours à courir de l'argent à gauche, à droite. C'est un problème qui est récurrent, qui est constant, année après année. Alors, ça fait mal, bien sûr. Mais les fédérations auraient dû agir bien avant, parce que quand on regarde ce qui s'est passé, entre autres, à la gymnastique aux États-Unis, avec des poursuites de 500 millions contre Gymnastique USA, par les athlètes qui ont été abusés, des milliards de dollars de poursuites contre le FBI qui n'a pas donné suite aux poursuites. Ça laissait parfaitement croire qu'il n'y avait aucune fédération maintenant qui était à l'abri. Et même si ces chiffres sont colossaux, sont des chiffres américains, bien, nos fédérations n'ont pas les reins nécessaires même pour survivre à une poursuite de quelques millions de dollars.
Jean-Luc, avec ces mesures-là, on prévient, hein, en quelque sorte, c'est ce qu'on veut, prévenir qu'il n'y ait plus de cas d'abus comme ça. Mais on ne règle pas le passé. Il n'y a pas de guérison, on pourrait dire, de prévu là, dans ce qui a été annoncé.
Non, malheureusement. Malheureusement, puis il y a un organisme, Gymnastics for Change, qui parle de 1000 cas d'athlètes qui ont déposé des plaintes, de cas qui ont été abusés, harcelés, intimidés, climat toxique. Bon, on ne va pas de l'avant avec ces cas-là. La nouvelle commissaire aux plaintes, qui est une personne très compétente, va devoir probablement jeter un coup d'œil à ça pour montrer le sérieux de la démarche qui va suivre, souhaitons-le. Maintenant, il faut être très prudent. On va voir, lorsqu'on va être dans une situation où peut-être une fédération va être candidate pour des médailles olympiques, si vraiment on va faire l'impasse sur cette fédération pour l'amener aux Jeux ou non, ou dans les grandes compétitions internationales. Il reste que le pain et le beurre de ces fédérations, malheureusement, ce sont ces médailles olympiques. Ça devrait être autrement, selon moi, mais pour l'instant, c'est ça. Alors, est-ce qu'on va mettre de côté, si on prend une analogie au hockey, est-ce qu'on va mettre de côté les meilleurs joueurs qu'on doit sanctionner au risque de perdre les séries majeures? Ben ça va être le challenge de l'avenir.
Bon, pour l'avenir, il y a la ministre qui a annoncé la création d'un bureau de la commissaire à l'intégrité dans le sport. Ce sera en place dès le 20 juin, on nous dit. Ce sera dirigé par Sarah-Ève Pelletier, une ancienne nageuse artistique. Son mandat va être de recueillir les plaintes, d'ouvrir des enquêtes indépendantes. Qu'est-ce qu'on faisait avant avec les plaintes?
Ça, c'est une bonne question. Ça tombait dernièrement, on faisait plus attention parce que l'opinion publique était forte contre les plaintes, mais pendant longtemps, on essayait de les enterrer souvent, malheureusement. Toujours un peu, l'excuse classique, c'était, on veut pas nuire à la crédibilité de la fédération, on veut pas nuire aux commanditaires, on veut pas toutes sortes de trucs qui étaient impossibles, qui étaient pas dignes vraiment de notre pays, je crois. Mm-hmm. Alors, il est temps qu'on adresse ça. La commissaire va être très achalandée, va être très occupée avec toutes ces plaintes. Et puis, souhaitons aussi là, qu'on donne un bon coup de barre dans les conseils d'administration des différentes fédérations, parce que ce sont eux, en bout de ligne, qui doivent voir à premier lieu à la santé et à la sécurité de leurs membres. C'est pas juste une question de budget pour les fédérations, là, mais ces gens-là des conseils d'administration devraient se tenir serrés. En fait, devraient se tenir les fesses serrées depuis fort longtemps, et souhaitons que maintenant, ils le fassent pour de vrai, parce que ils ont ce mandat, et ce mandat, ils l'ont jamais appliqué, et il est temps de faire tomber le club des bons copains, là, de gens qui sont sur ces conseils d'administration depuis toujours et qui pensaient avoir un siège doré là, pour le restant de leur jour. Il est temps de faire un ménage là-dedans pour la sécurité des athlètes.
Donc, je comprends qu'il y a quand même beaucoup de choses en place comme ça pour provoquer un changement de culture, mais il faudra aller plus loin. Jean-Luc Brassard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir.
C'est grand plaisir. Bonne soirée.
On parle maintenant du coût de construction des maisons des aînés. Vous savez, c'est ce projet phare du gouvernement de la CAQ. Bien, les coûts ont explosé. Il en coûte maintenant en moyenne plus de 700 000 $ par chambre. Il y a des propriétaires de résidences privées qui assurent pouvoir construire des résidences similaires pour la moitié, voire le tiers du prix. Pourtant, leur aide ne semble pas la bienvenue là, pour le gouvernement Legault. Voici ce qu'a préparé Fanny Lachance-Paquette.
C'est des maisonnées, donc c'est tous des groupes de 16 individus qui vivent ensemble.
Ça coûte combien ici faire une chambre?
Ici, par chambre, c'est moins de 250 000 $ par chambre.
Qu'est-ce qui peut justifier que ça vous coûte 3 fois moins cher à vous?
Il y a plusieurs choses. Puis à la défense du gouvernement, ils ont tout un processus d'attribution de contrats, de processus de réalisation, de surveillance de chantier qui est beaucoup plus complexe que nous.
C'est toutes des chambres privées, avec une salle de bain privée. C'est vraiment à la fine pointe. Là.
Aussi, il faut voir que la maison des aînés, je pense que ce qu'il faut questionner, c'est les dimensions par chambre. Nous, ici, on a 760 pieds par chambre, 760 pieds carrés par chambre. Les maisons des aînés, selon les devis qu'on a vus, c'est plus grand que ça.
On tend la main au gouvernement du Québec. On veut faire partie de la solution. Il y a plusieurs ressources intermédiaires qui se sont développées les dernières années qui répondent justement à la vision des maisons des aînés. Et il y en a d'autres qui pourraient se développer dans les prochains temps.
C'est normal que ça augmente. Mais il ne faut pas faire de comparaison entre, par exemple, des constructions qui peuvent ressembler aux maisons des aînés, qui coûtent moins cher, mais qui ne sont pas des maisons des aînés.
Puis ce modèle-là que vous avez ici de maison des aînés, est-ce que ça ressemble un peu au concept de maison des aînés du gouvernement?
Au fait, oui. C'est le même modèle. Donc, on a choisi de faire des maisonnées de 16, mais c'est le même principe.
Il ne faut pas mettre de côté la question de la qualité de la construction. Parce qu'on peut faire des constructions moins chères qui vont durer 30 ans, mais on peut faire aussi des constructions qui vont durer 75 ans.
La ministre des Aînés, Marguerite Blais, semblait dire que les maisons des aînés avaient peut-être une qualité qui était différente que ce que vous offrez ici.
Là-dessus, je me permets d'en douter. C'est nous qui avons supervisé toute la construction et on demeure propriétaire de la bâtisse. Alors, c'est tout à notre avantage de faire un produit de qualité qui va demander le moins d'entretien possible au fil des années.
C'est certain qu'il faut revoir un peu les barèmes financiers qui permettent la construction des ressources intermédiaires, parce que comme n'importe où, évidemment, l'explosion des coûts de construction a un impact, mais malgré tout, on voit des projets actuellement qui sont, disons, à moitié du prix d'une maison des aînés ou même, dans certains cas, au un tiers du prix.
Pouvoir travailler ensemble pour être capable d'affronter le tsunami démographique qui s'en vient. Puis, il faut que tous les acteurs de la société puissent participer pour être capables, de façon très... sans mettre de politique là-dedans, sans mettre trop d'émotions, juste factuellement, comment on peut répondre à ces besoins-là pour que les aînés trouvent une place qui convient.
Plus du tiers des jeunes qui sont pris sous l'aile de la DPJ vont se retrouver en fait en situation d'itinérance. C'est ce que révèle une étude qui a été publiée aujourd'hui par un collectif de chercheurs. C'est un sombre constat qui remet sur la table l'urgence d'agir pour leur venir en aide, selon les experts. Laurence Royer.
Un jeune sur trois qui est placé par la DPJ va se retrouver à la rue entre ses 18 et ses 21 ans. Et même que 7 sur 10 vont vivre de l'instabilité résidentielle. C'est un problème qui n'est pas nouveau, mais qui était sous-estimé. Un premier volet de cette étude, dévoilée en 2019, révélait que c'était plutôt une personne sur cinq qui allait se retrouver en situation d'itinérance. C'est un portrait qui est donc beaucoup plus sombre. Et c'est quand on compare cette statistique avec la population générale qu'on se rend compte de l'ampleur du problème.
À Lauzière, oui, on observe malheureusement trop de gens qui sont issus des centres d'accueil qui aboutissent ici à Lauzière. De plus en plus, d'ailleurs, de plus en plus de jeunes qui viennent. On les sent très peu outillés pour faire face au dehors, entre guillemets.
Le 33%, pour moi, je pense que c'est réaliste, là, comme pourcentage de ceux qui se retrouvent dans la rue à cause de choix, relations sociales, des amis, la consommation, soif de liberté, passer des nuits à l'extérieur l'été, tant que nous, ils ne peuvent pas découcher ici.
En fait, les gens, ils reçoivent des sous, ne savent pas comment les administrer, les gens ne savent pas comment rechercher un loyer, et c'est de plus en plus difficile parce que avec l'augmentation du coût de la vie, l'augmentation de la hausse des loyers, le taux d'inoccupation qui est très faible.
Et on a aussi parlé à Anthony, qui a évité de peu la rue. Il est toutefois conscient que c'est pas tout le monde qui a eu sa chance.
Avant de venir ici, je n'étais même pas capable de prendre un bus. Je n'étais pas capable de prendre rien, genre, je suis pas capable de faire ma nourriture, puis rien. Maintenant, je suis capable de tout faire. Mais ici, il t'aide à te prendre en main. Puis oui, c'est dur le matin de se lever, mais ça en vaut vraiment la peine.
C'est la rareté des ressources pour aider les jeunes dans leur transition vers l'autonomie qui est pointée du doigt. Il manque de ressources et d'hébergement.
Plusieurs de ces jeunes-là vont connaître un cumul de difficultés dans des accès à des services ou dans des sorties institutionnelles. La sortie de placement, c'est clair qu'il faut mieux accompagner.
C'est donc un constat qui n'est pas nouveau. Il y a d'ailleurs la commission Laurent sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse qui s'était penchée sur la question et qui avait émis des recommandations. Cette étude remet toutefois sur la table l'urgence d'agir pour améliorer le sort de ces jeunes.
Ça fait 40 ans que l'enjeu de la sortie de placement des jeunes doit être mieux accompagné. On espère que nos résultats vont pouvoir permettre des décisions qui vont faire en sorte que ces chiffres intolérables des jeunes qui connaissent des difficultés d'hébergement au début de l'âge adulte, on les connaisse pas dans la prochaine étude que je vais réaliser.
Je pense qu'il doit y avoir de meilleurs ponts, pas nécessairement avec les refuges, mais avec des partenaires en itinérance, des partenaires communautaires, et je pense qu'il faut mieux travailler la préparation à la sortie.
François Legault a trouvé sa candidate pour aller chercher la forteresse libérale d'Anjou-Louis-Riel. Il s'agit de Karine Boivin-Roy. C'est une ancienne conseillère municipale qui s'était présentée sans succès avec l'équipe de Denis Coderre pour devenir mairesse de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. L'automne dernier, en fait, la circonscription est détenue depuis 20 ans par la libérale Lise Thériault qui a annoncé son départ de la vie politique. Les Franco de Montréal battent leur plein pour une quatrième journée. Bien sûr, ça se poursuit ce soir. Ce sera un peu différent puisque c'est pas seulement le français qui sera à l'honneur, mais aussi les nous. On en parle avec notre collaborateur Seb Lauzon qu'on retrouve à la place des festivals. Salut Seb!
Salut Michel. Effectivement, aujourd'hui, Émile Bilodeau est en vedette sur la scène Belle derrière ici à la place des festivals à Montréal et il a décidé de faire place à la langue Innu en plus du français. Et d'ailleurs, on l'a avec nous. Émile Bilodeau, comment tu as eu cette idée d'intégrer la communauté Innu dans ce spectacle au Franco?
Bien, c'est un appel citoyen beaucoup parce qu'il y a eu des enjeux dans le domaine des affaires autochtones au Québec. Puis je regardais un peu alentour de moi. Il y a eu des shows à Joliette pour commémorer le décès de Joyce Echaquan. Il y a eu la polémique avec Samian puis le Festival Green Bay. Donc ça, je me suis dit, dans un contexte organique, là, parce que c'est mes amis, là, je vais passer mes étés à Malioténam, je me suis dit qu'on allait montrer à Montréal un peu des musiques qu'on voit pas souvent, malheureusement. Je suis content que les Franco nous offrent cette plateforme-là. C'est vraiment cool de leur part.
D'ailleurs, à ce propos-là, comment Laurent et toute l'équipe des Franco a accueilli cette demande de ta part d'intégrer la culture Innu dans ton spectacle?
Ils étaient très enthousiastes. Il faut dire que Laurent, je pense que c'est arrivé un peu comme un cadeau, là, tu sais, c'est comme il a envie de faire sa part aussi, puis je sais que Samian, il fait son show, là, dans quelques jours aussi, là, à l'extérieur, gratuit, donc on met l'épaule à la roue pour continuer de faire rayonner ces nombreuses cultures-là, hein, parce que quand on parle du Québec, moi, j'ai envie qu'on parle des cultures autochtones aussi, tu sais, puis c'est important que ça commence avec la culture.
Et ton Innu est prêt pour ce soir?
Ouais, c'est ça. Natacha Canapé-Fontaine m'a donné des cours privés. Fait que j'ai 4 heures d'Innu derrière la cravate, puis c'est mon examen dans quelques heures.
On a hâte de voir ça. Merci, ça. À ne pas manquer dès 21h, donc, sur la Sainte-Belle du côté de la place des festivals pour les Franco. Et juste avant, à 19h, manquez pas ça. On parle beaucoup d'elle récemment. J'aurai l'occasion de vous en reparler un peu plus tard ce soir. Elle est en nomination pour le prix Félix Leclerc qui sera remis pour une 26e édition. Je parle de Marilyn Léonard. C'est une artiste qui a des critiques pour son premier album qui a pour titre « Vidange » qui sont exceptionnels. Alors, bien hâte de voir ça, c'est à 19h.
C'est bien noté. Merci beaucoup, Seb. À demain.
Merci, Michel.
Aménager une ferme dans un demi-sous-sol, c'est une idée, ouais, qui peut sembler un peu farfelue, mais semble-t-il que c'est bel et bien viable. On vous en parle dans un moment. Connaissez-vous le concept de ferme verticale? Il s'agit d'un type d'agriculture non conventionnelle qui prend de plus en plus de place à Montréal, au point où même l'emblématique silo numéro 5 pourrait devenir la plus grande ferme verticale au monde. Ça, c'est selon le promoteur de Vimco. Ma collègue Jennifer de l'équipe numérique a visité une ferme urbaine pour comprendre ce qui pourrait devenir un nouveau phénomène agricole.
L'agriculture verticale, ça ressemble à quoi? Bien, on se trouve actuellement dans l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal, devant le Jardin vertical. C'est une ferme située dans un demi-sous-sol qui a ouvert ses portes il y a environ 2 mois. Alors, on va aller vous faire découvrir comment ça fonctionne.
Bienvenue à la ferme.
Je suis France Chouinard et je suis cofondatrice de Jardin vertical avec Chad. Le but de faire un jardin vertical, c'est vraiment l'hyperlocalisation.
Le futur dans notre but, c'est d'avoir environ 300 tours dans cet entrepôt
pour fournir tout le Rosemont La Petite Patrie. Et ici, on a environ 50 tours pour le moment. On utilise des tower farms et puis on utilise un processus qui s'appelle du aéroponie. Et c'est pourquoi ça s'appelle du aéroponie, parce que les racines. Dans le processus d'hydroponics, les racines ils restent dans l'eau tout le temps. Dans notre processus, les racines, check les belles racines. Sont vraiment contentes, en pleine santé. Et puis, les racines, ils restent dans l'air. Et puis, une fois par l'heure, le l'eau et les minéraux vont monter et descendre dans l'intérieur. Après, les racines sont capables de respirer. C'est pourquoi les plantes grandissent plus vite et le goût est plus prononcé.
La roquette ici qui est intéressante.
Est-ce que tu aimes les choses épicées?
Oui, vraiment. Une roquette épicée.
Noiseux, après. Les patates, les carottes, les betteraves, des choses de même. On laisse les fermiers avec la terre pour faire ça. Et nous, c'est vraiment les verdures.
Le but, c'est d'ouvrir plusieurs fermes verticales dans Montréal.
Au début, la ville a dit non, vous n'êtes pas capable de faire ça dans une bâtisse. Eux, ils vont travailler vraiment fort sur la loi pour avoir les changements nécessaires. Et puis maintenant, on est capable de faire ça dans une bâtisse.
Directeur du programme de gestion technologie d'entreprise agricole à l'Université McGill. C'est une avenue intéressante pour produire de la nourriture parce que effectivement, comparé à une production au champ, on a besoin de beaucoup moins de mètres carrés de superficie parce qu'on est en structure verticale. Et en plus, ben, nos économies changent. Alors, on a plein de bâtiments dans les grands centres qui ont déjà été utilisés pour d'autres choses dans le passé, que ce soit des usines ou des entrepôts qui peuvent facilement être réutilisés pour faire de l'agriculture verticale. Il y a beaucoup de producteurs et beaucoup de productions qui sont encore en essai-erreur parce que on est encore dans les balbutiements et le déploiement de ces technologies-là. Donc, tout dépendant de la production, certaines méthodes de production, qu'on parle d'aéroponie ou d'hydroponie, peuvent fonctionner mieux. Puis ça peut dépendre aussi des bâtiments dans lesquels ils sont installés. Par rapport à ça, par rapport à cette occupation du territoire urbain, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'avenir pour ces formes d'agriculture urbaine-là.
Une page d'histoire s'est écrite en fin de semaine à Shawinigan. Les Cataractes ont gagné les séries éliminatoires de la Ligue junior majeure du Québec pour la première fois en 53 ans. Ce qui pourrait leur permettre, en fait, de mettre la main sur la Coupe Memorial pour la deuxième fois de leur histoire. Mon collègue Olivier Caron était sur place au retour triomphal de l'équipe samedi.
C'est pas juste des sacrifices d'un an, de quelques mois, c'est des sacrifices depuis 4 ans, depuis que j'ai été repêché ici, puis aujourd'hui, d'être là. Aujourd'hui, ça va être arrivé là, c'est incroyable.
Meilleur feeling ever. On travaille pendant une saison complète pour vivre ce moment-là. Les mots sont... J'ai de la misère à trouver les bons mots à l'heure actuelle, mais je suis tellement fier des gars. Les gars croient tellement en leur capacité. Puis tu sais, quand tu travailles les uns pour les autres, notre slogan Ubuntu, on est une famille serrée comme j'ai jamais eu l'occasion de voir. C'est ce qui explique le résultat qu'on voit actuellement.
Et toujours au sport, après 2 ans d'absence, le Grand Cirque de la Formule 1 est de retour à Montréal cette semaine. D'ailleurs, les cargos des équipes ont déjà commencé à arriver à Montréal. Le 7 fois champion du monde, le Britannique Lewis Hamilton, a confirmé sa présence, lui qui a souffert de maux de dos chroniques lors de la course d'hier en Azerbaïdjan. Les essais libres commenceront vendredi après-midi sur le circuit Gilles Villeneuve. Bien sûr, comptez sur nous pour y être. L'an dernier, il y a une entente qui a été conclue avec le promoteur pour la présentation de la course jusqu'en 2031. Rebonsoir Sabrina.
Rebonsoir Michel.
On va parler un peu de la santé du premier ministre Justin Trudeau parce qu'on a appris aujourd'hui qu'il était atteint pour une deuxième fois de la COVID-19.
Oui, parce que la dernière fois, il a été atteint de la COVID-19 en janvier 2022. Donc, mm-hmm. Ça fait même pas 6 mois qu'il avait attrapé la COVID-19. Et là, on le voit dans un tweet qu'il a mis aujourd'hui, qu'il a reçu un autre résultat positif à la COVID-19, qu'il va bien et qu'il va s'isoler. Il a dit, bon, heureusement que j'avais obtenu mes vaccins parce que je me sens quand même assez bien. Donc, encore une fois, Justin Trudeau qui sera possiblement là, absent ou à tout le moins va faire des visioconférences pour les prochains jours.
Bon, question qu'il se soigne. Ouais. Près de 20 % des propriétaires de maisons là, au Canada jugent qu'ils sont déjà plus en moyen de payer leur hypothèque avec l'augmentation des taux d'intérêt.
C'est selon un sondage la banque Manuvie qui a été révélé aujourd'hui. Et là, on voit déjà qu'il y a plusieurs propriétaires qui sont vraiment au bord du gouffre. On le sait, il y a le taux d'intérêt qui ne cesse d'augmenter. Ils disent pour vrai, ça continue. Puis même déjà aujourd'hui, on a de la misère à payer. Fait qu'on va en parler ce soir avec l'économiste M. McMahon. Ce soir.
Alors, ce soir, aux 22h, merci beaucoup, Sabrina.
Ça fait plaisir. Bonne émission.
Alors, excellente soirée. On se retrouve demain, dès 17h. Bye-bye.